Nous sommes allés à notre époque, c'était le code civil de la colonie intégrale, le père n'avait pas le droit de connaître l'enfant en ayant mariage. Ou alors faire du divorce. Et oui, c'était le code civil qui avait été changé il y a tellement longtemps. Excusez-moi, c'était
un petit peu. Le père était un préfet et que sa femme était la fille d'un sous-préfet et le déshonneur des familles était d'une dimension telle que la femme a accouché en secret, en tout cas pas dans sa ville, et sa mère, la mère de la femme qui a accouché, a adopté le petit enfant qui venait de naître en lui donnant un nom de fantaisie, le nom Aragon, et le prénom du préfère, oui, on dit,
c'est le père qui a exigé, elle a, et on soupçonne même, parce qu'il avait été aussi ambassadeur de France en Espagne, et comme c'était un chroniqueur, il semble bien qu'il ait dû charger les historiens qui ont trouvé ça, petit, je veux dire, ceux qui s'occupent de la petite histoire à travers le roulement des documents, ça sera très précieux. Il aurait pu une aventure avec la reine d'Espagne. Et alors, lui, Aragon, l'évocation d'Espagne, c'est peut-être pas la raison.
Oui. Et on peut donc imaginer que le goût d'Aragon pour les grands hommes et les descendants historiques, vous avez parlé de Massillon tout à l'heure, c'était lié au fait du trouble qu'a dû jeter dans une âme la révélation de cette situation. Lorsqu'il a eu 18 ans.
Il faudrait faire ce que les psychanalystes, qui n'ont pas la compétence du tout, appellent aujourd'hui un gérogramme. Quel gérogramme sur les Aragons ? Parce que qu'est-ce que c'est aussi de cette mère dont je soupçonne, derrière la fondation, qu'elle avait le tout, qu'elle ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que cette mère qui, jusqu'à l'âge de 20 ans, pour son fils, se fait passer pour sa sœur et se comporte comme sa sœur. Alors la révélation, c'est au moment où Aragon, médecin militaire, parle fort en 1918, c'est les grandes offensives de Foch et de Mangin pour libérer la France et refouler l'arme du Kaiser. Il est à la gare de l'Est, il y a tous les officiers qui embarquent là, le canon donne à 100 ou 110 km d'or, c'est la boucherie, il va peut-être être tué, et sa mère arrive sur le quai, lui dit, ben voilà, je te le révèle, ta mère, c'est moi, sa sœur, et ton père, c'est lui, le parrain. Et vous vous rendez compte que le télescopage entre la mort et la naissance. Alors, j'ai raconté ça parce que c'est une biographie, mais c'est pas du tout une biographie américaine où le marqueur de Cotonou, la marquise sortie à 6 heures, à 11h30, elle était chaud. Et elle-même, je bouscule la chronologie et les moments pour vous faire respecter. Et je l'ai raconté assez en détail pour une raison fondamentale. C'est quand vous le dites, avec nos connaissances d'aujourd'hui, et sinon, on raconte sur les enfants des écoles, par exemple. Alors, un raconte. Dans une telle situation, c'est un cancre, c'est un petit voyou, c'est un rebelle, pas du tout. C'est un petit génie, un petit Mozart, il commence à écrire des romans à l'âge de 5 ans et cœur.
Plusieurs fois, dans le livre que je fais, qui a les inscrits, je n'ai jamais jamais écrit, que j'ai écrit, il y a une page d'un roman qu'il avait commencé à 5 ans.
Et qui est comment ? Qui est que la famille a gardé, qui est conservé, qui a trouvé dans ses archives, c'est terriblement émouvant de voir ce garçon de 5 ans qui avait écrit un roman, mais quel roman ? À l'âge de 20 ans, ou à peu près, quand il écrira Le Libertinage, son premier livre qui fait remarquer totalement littéraire, qui a République des lettres, il insère ce roman qu'il a écrit à l'âge de 5 ans. Dedans, sans être là, tout le monde croit qu'il vient d'écrire 20 ans. Et il y a même des gens qui l'accusent d'avoir combiné cette histoire parce qu'elle se passe en Russie avec les communistes. Il faut toujours se méfier du parti communiste primaire. C'est prodigieux. Et j'ai raconté ça parce que ça va tout de suite poser une question qui a jeté une lumière sur la personne et l'œuvre d'Aragon pour moi. C'est qu'au lieu d'être ce cancre, c'est un enfant détruit, Malgré le monde, souffre tout, révolté au plus mauvais sens du terme, qu'il aurait pu l'être. Il répond à sa situation par la création, par l'imagination d'un monde de mots merveilleux qui montre que l'homme peut être, peut avoir une physique de l'homme. Et c'est ce qu'il fera toute sa vie. En 56, quand j'arrive à mon chef qui dévoile les crimes de Staline, et que c'est la question de l'identité d'Aragon, parce qu'il n'est pas entré dans le communisme pour faire de la politique, pour faire une carrière, pour se faire élire, mais dans une conviction fondamentale de poète, de philosophe, si vous voulez, Aragon n'est pas détruit, il ne s'effondre pas. C'est là qu'il écrit, le plus fort de la nuit, j'entends le Cochanté, il est écrit par des poètes sublimes, puis par des romans extraordinaires, par une simple chef-d'œuvre. Je crois que ce mécanisme, ce processus de la création chez Aragon, pour répondre au tragique de la vie personnelle ou collective, c'est fondamental pour le comprendre. Et ça nous éclaire, c'est que la vraie réaction de l'homme face aux malheurs, c'est la culture. Mais dans la vie personnelle, c'est aussi le grand amour. Et on parlait du 5 novembre 1938, bien sûr c'est le 5. C'est pas le 6, c'est le 5. Voilà. Et c'est plutôt Patrick que quand
il a reçu le petit mot de Mayakovski, le 5, voilà. Et c'est le 6 qu'il a fait la rencontre à la coupole.
Oui. Alors à la coupole, il lui est présenté, c'est un partage très cosmopolite, des Russes, des Soviétiques, etc. Ah, ça a été beaucoup moins. C'est aussi une question que je me suis posée alors là quand je le connaissais, disons. Comment fait-il pour écrire tout ce qu'il écrit? Parce que moi je ne l'ai jamais vu, sauf exception, faire une chose, ce que je suis en train de faire, c'est qu'il parlait tout le temps. Non mais pas. Il écrivait toute la nuit. Et une vitesse stupide, c'est là que moi j'ai dit. Un jour, une belle écriture d'ailleurs, oui, belle écriture. Je me trouve chez lui, il est rentable dans son boulot. Et on était chacun assis au bout de la table, et à 5h du soir, il dit, mon petit, moi, il faut que j'écrive. Tu as un article, mais moi, j'en ai un bon matin pour les lettres françaises. Au bout d'une heure, il y a un article qui est terminé. 17 pages de lettres françaises sans une rature. C'était impressionnant. Résultat d'un très grand travail. Il n'était pas celui qui disait simplement, il y a le gestement intérieur est essentiel. C'est ce qu'il explique très bien dans le livre que vous venez de citer, je n'ai jamais appris à écrire ou les assis. Mais il y avait un énorme travail. J'ai retrouvé, par exemple, dans cette bibliothèque, des feuilles qui disaient des BD, des sonnets, et où il faisait des listes de ce qu'on appelle les dièses, et on va dire chemin. Il étudiait le travail, la prosodie. Il avait dans la tête tout le dictionnaire français. Il y en a qui sont avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais avec le dictionnaire. Oui. Alors, Kefa, il rencontre les intégrés. C'était une juive russe de Moscou, de la société la plus cultivée de Moscou, qui était côté révolutionnaire dès avant la guerre 14, parce que le tsarisme, il n'a jamais été communiste. Elle n'a jamais été communiste, elle essaie beaucoup d'approcher des communistes à partir de la guerre. Je voudrais voir que cette femme, qu'on discrédite pas mal aujourd'hui, elle était russe, juive, mariée au directeur d'un grand journal communiste en Allemagne ce soir, qui écrivait dans la nouveauté, qui était très en vue. Elle refuse de partir aux États-Unis, comme on fait beaucoup d'intellectuels, je ne trouve pas du tout, ils sont de leur peau, et le Conseil d'Amérique leur offrait des possibilités d'émigrer aux États-Unis au début de l'occupation de la France. Elle refuse de partir, elle mène la résistance avec son mari dans toute la guerre, et elle est la première femme à avoir obtenu le prix Goncourt. C'est en 1944, qui avait commencé à écrire 3 romans en russe et qui tout d'un coup en cachette d'Aragon, qui a culpabilisé toute sa vie de ne pas l'avoir lu et de ne pas y avoir cru, s'est mis à écrire des romans en français. Quand même, c'est pas une femme quelconque. Elle était architecte, mathématicienne, très logique. Moi j'ai été 57 régulé, et mon 87, le mode chilien, Pablo Neruda, qui était un grand ami des Aragons, il a dit, ça a saisi Jean-Laurent, j'ai trouvé ça très en vérité, comme j'ai écouté les hommes. Une épée aux yeux bleus, d'une femme hyper lucide, hyper intelligente, tranchante, très autoritaire, tranchante, vous avez les mots, tranchante. Elle a beaucoup aidé à Aragon. Je l'ai comparé, ici, beaucoup de gens connaissent mieux la littérature allemande que dans le reste de la France, à Goethe, à Weimar, quand il était tout jeune, M. Grand-Duc, je me demande, et qu'il a rencontré cette femme, s'appelait Charlotte Offenstein, et qui lui a fait comprendre peu à peu que pour créer une grande œuvre, pour devenir un grand classique qui restera dans la littérature, il faut savoir se guider. Il faut savoir ne pas se disperser, pour en profondir, ce que Goethe l'appelait le zinc ou le renoncement. Et je crois qu'elle a triolé outre l'amour, très belle, même si Aragon, à la fin de sa vie, le deuxième tome, est devenu homosexuel ou s'est adonné à l'homosexualité, je crois qu'elle a joué ce rôle de canaliser peintre pour une statistique qui m'a récemment après 100 ans. Qui a été le secrétaire d'Aragon avant Bayard 39, que j'ai rencontré, c'était un élonnement, a résumé cette opinion en disant elle l'a fait se tenir droit. Et je crois que c'est vrai. Parce qu'il avait une tendance à la dispersion, mais à l'entour des structures.
C'est lui qui a pris cette image des lattes qui constituent un tonneau et qui ne tiennent qu'à cause du cerclage. Et c'est vraiment le rôle. Celle-là, c'était justement de tenir les lattes.
Elle a été le tonnelier. C'est un pantalon, un réel, même si je suis un petit peu, non, c'est pas possible, j'ai plus. Mais bon, il y a eu, entre une complicité, au meilleur sens du terme, profonde sur l'essentiel. Et j'ai l'un et l'autre, jusqu'au bout, cette croyance que l'humanité pouvait enfin s'organiser de telle sorte que les hommes soient dignes des hommes. Et alors, l'amour, pour Aragon, la fraternité avec les autres hommes et l'amour entre les êtres. Et c'est plus simple parce que c'est pour lui qu'il a d'ailleurs écrit une messe à les hommes. Il a été une formation profondément catholique.
Elle était furieuse contre ça d'ailleurs.
Oui, mais c'était catholique. Vous avez raison. Mais là, c'est trop. Je vous assure. J'ai le droit de dire une question personnelle. Quand tu dis la femme et la mère de l'autre, etc., il est gonflé. C'est trop. C'est trop. Il a dit des choses bien plus merveilleuses et plus fondamentales que ces formules bien françaises.
Il y a des choses étonnantes dans un petit court-métrage. Dans un court-métrage d'Agnès Varda, où justement Elsa critique ouvertement lui pour certains aspects de sa personnalité, le fait qu'il se considère comme très individuel et qu'il se méprise, etc. Et elle dit, oui, ça c'est des défauts chrétiens, n'est-ce pas?
Mais dans le même film, que je vous recommande, puisqu'on vient de publier l'ensemble des films en cassette d'Agnès Varda, il y a aussi une scène où il rentre chez elle, qui m'a fait envie d'écrire, et c'est justement. Et elle lui dit, c'est comment? Parce que, je crois que je comprends. Moi, j'ai ressenti, mais là, c'est une opinion toute personnelle, mais pas dans tout des faits, mon ressentiment, non, la sensation, j'allais dire mon ressenti, mais j'ai presque mon. Moderne, c'est que Aragon est un grand faux. Qui paraît
un dominant comme un dominant.
Il est un dominant parce qu'il a une conscience qui crée une œuvre d'exception. Et naturellement, il avait la tendance à se consacrer entièrement à ça et à sacrifier beaucoup de ce qui est autour de lui. Ce qui peut dire le culpabiliser, après s'excuser auprès d'Elsa. Et c'est là qu'il a rajouté un peu la baisse d'Elsa, etc. Il y a quand même quelque chose de vrai. C'est quand il dit qu'Elsa avait sortir de ce qu'il appelle ses nuages, c'est la démarche qui s'est réellement produite. C'est-à-dire qu'au moment où sa personnalité et son œuvre était menacé de dissolution, de dispersion, d'autodestruction.
Il
a été associé à la crise.
Il l'a rencontré pratiquement au lendemain d'une tentative de suicide.
Absolument. Pour une autre femme, ainsi que d'un.
J'imagine que vous êtes tenté par poser quelques questions. Quel faudrait ? Allons-y.
En 45, c'est ça, après 45, qui a été la conscience de la jeunesse. Alors, est-ce que Aragon n'a pas pu jouer ce rôle, dans la mesure où elle était résistante, et est-ce qu'elle a conçu une jalousie ou quelque chose?
Alors, là, nous sommes autant de... nous sommes autant de... J'ai pas fait l'habitude de faire des choses comme ça. J'ai pas du tout divisé par hasard. C'est évidemment que l'entrée d'Aragon dans la Deuxième Guerre mondiale a transformé son statut. Il devient le grand poète national qui n'était pas jusque-là. Il écrit le Crève-Cœur, il va écrire la Tienne française, etc., etc. Et à la sortie de la guerre, tout devrait faire que le côté catholique, ça soit Bourbiac, le grand résistant associé à Aragon, à la fondation du Comité national des écrivains, qui devienne le maître à penser de la jeunesse chrétienne, et du côté non chrétien, en croyant, que Aragon soit le maître à penser de la jeunesse comme Chic l'avait été dans la génération précédente et Barès dans celle encore avant. Ça ne se produira pas. Il y a un conflit non dit en grande partie qui s'engage entre Aragon et Sartre. Et c'est ça qui l'emporte. D'ailleurs, c'est complexe. Alors, je décrirai un peu le voyage de Sartre aux États-Unis, etc. Mais il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là, qui seront sans doute encore mieux décotées par des études plus approfondies. Aragon est même mis en question par des communistes sartriens, dont l'un est Roger Vaillant, ce qui explique d'ailleurs. Ils seront à couteau tiré par la suite dans un hebdomadaire qui n'était pas les lettres françaises dirigées par Aragon, mais Action, qui était également payé par le Parti communiste, qui viendra d'ailleurs dans le Saint-Bordel. Et ils disent, bon, Aragon, il fait des Berlanciennes, il fait des Alexandrins. Franchement, moi j'aime bien les Alexandrins, même s'ils ont un peu vieilli parfois. Et puis, bon, c'est grand-papa au musée. Qu'on le couvre d'honneur et qu'il laisse la place. Il y a un conflit très profond, très compliqué, et à la question, de nombreux intellectuels communistes, à ce moment-là, pas tous, se braquent contre l'existentialisme en évoquant un produit délétère qui peut décomposer les consciences des jeunes Français. Et là, il y aura toute une adresse engagée à laquelle participe aussi, hors de France, le grand philosophe marxiste Lukács, etc. Mais nous sommes déjà dans un autre monde qui semble la guerre. C'est assez étrange, parce que Sartre va capitaliser la résistance, alors que la résistance de Sartre relativement faible. Et Aragon, par contre, chose que je vais mettre en deuxième tome, à la lumière des archives du Musée national de la résistance, a été un génial de la résistance, un véritable organisateur, avec des messages secrets aux dirigeants de la résistance, etc. C'est un organisateur incroyable, un grand militaire.
Alors, quand vous venez de citer Georg Lukács, alors nous sommes à cette époque-là, notamment le débat sur l'existentialisme qui justement concerne la culture essentiellement entre Sartre et Lukács. Moi je me suis toujours demandé pourquoi Aragon n'a-t-il pas participé à ces courants de pensée sur l'existentialisme dans sa dimension culturelle, notamment aussi de théâtre et de la poésie.
Ben, c'est une question dont on pourra débattre plus longuement. J'apporte un certain nombre d'éléments dans la deuxième partie, puisqu'elle se situe chronologiquement après. Je me suis même interrogé. Je me demande si les communistes de l'époque et Aragon lui-même ont fait le bon choix. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se rapprocher davantage des existentialistes et marcher du même pas avec eux? Alors évidemment, c'était compliqué. Parce que du côté des existentialistes, ils n'avaient pas tellement de plaisir. Ils attaquaient les communistes à bout des rouges parfois. Mais bon, là, il y a eu un rendez-vous manqué avec l'histoire, je crois. Et c'est difficile à expliquer. Chez Aragon, et bien plus encore chez Elsa Triol, qui était une grande moraliste, il y avait la crainte d'une décomposition morale. Je ne laisse pas les côtés de l'existentialisme qui leur déplaisaient. terrible, voilà, une diatribe d'Aragon contre Elrond, c'est terrible. C'est curieux. C'est curieux de voir que cet homme qui a été, qui va redevenir le porte-parole de la liberté homosexuelle, c'est à ce moment-là enfermé dans un combat assez étriqué entre l'essentiel et l'autre. D'autant plus que chez les jeunes communistes intellectuels de l'époque, le centre était une lumière. Moi, j'ai été influencé par ça, franchement, quand j'étais quelqu'un. Et puis, quelques années après, je me retrouve au début des années 60, porte-grève à Paris. On fait avec le porte-philo une enquête au bout des deux étudiants des graines. Il y avait des cellules communistes parmi eux, etc. Époque. Et la réponse, quel est l'homme, quel est le penseur qui vous a le plus influencé, 98% Sartre. Alors il y avait chez Sartre quelque chose de séduisant qui n'était pas dans le communisme. Il n'est pas tellement que je parle en réalité, mais il est apparu comme le porte-parole des aspirations du langage des modes de la jeunesse. Ça, j'ai rendu. Alors, on va compléter ça, ça, j'ai rendu. Et j'ai pas le droit quand même, déjà faisait ça avant notre époque. Pour ne pas trop parler, j'ai essayé d'évoquer ça dans le deuxième tome. Je ne pense pas avoir été capable d'approfondir encore suffisamment ce sujet. C'est vraiment un sujet sur lequel il faut débattre.
Oui, il était d'origine alsacienne, ça.
Pardon ?
Charles était d'origine alsacienne.
Oui. 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 Merci de le
rapport.
Alors, il y avait d'autres problèmes derrière, ça c'est le problème de fond. Il y avait des problèmes des rapports de Aragon, Sartre et Lisan. J'ai fait un chapitre sur Lisan, mais c'est une affaire très compliquée, ça aussi.
Quel est
le
rapport avec les surréalistes avec les surréalistes?
Ah, alors, c'est toute une partie du tome que vous avez sous les yeux, c'est plus que les rapports. Aragon est l'un des fondateurs du surréalisme, essentiellement avec André Breton. J'ai essayé de rappeler et d'expliquer ce que c'était que le surréalisme pour les jeunes d'aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'il est dans notre cas. C'est un résultat de l'énorme mise en question, de l'énorme ébranlement que nous ne serons peut-être pas assez aujourd'hui qu'a été la guerre 14-18. C'est fantastique. Ça ébranle même la langue, ça ébranle tous les dogmes, tous les croyances, etc. Et c'est le jeune, en commençant cette période, d'abord à travers Dada, qui est ministre Dada. Et ensuite, ils attendent les meilleurs d'entre eux, retournent ou l'autre, Aragon. Donc, ministre, c'est pas la solution, on va l'avenir. Il faut créer sur les artistes, il faut construire. Et pour construire, il faut le faire avec un langage, des idées, des méthodes, des procédés de création complètement nouveaux. Et là, il est né une partie de notre monde moderne, nous vivons dans le monde. Aragon a beaucoup contribué à ça. Donc j'ai essayé aussi d'analyser un peu les rapports Aragon-Breton compliqués. Après tout, Aragon était peut-être un mauvais flou de Breton, et Breton impérial, qu'on voit sur le tableau de Max Ernst, qui est la colonne, le rendez-vous des amis, le bras levé comme Auguste. Montoge, et Aragon qui s'est conclu derrière, plus féminin, plus souple comme une liane, et un beau plaisir derrière. Et je laisse ouvert. Je reprendrai presque l'idée de dominance et l'affrontement de deux dominants, n'est-ce pas? L'affrontement de deux chefs, ça fait un trop.
Juste un petit mot, je suppose que vous consacrez un passage à l'œuvre érotique d'Aragon, longtemps restée sous le manteau.
Qu'on dirait. Oui, Aragon lui-même a nié qu'il en fut l'auteur. Il est l'auteur. Et c'est un très beau livre. Le qu'on dirait. D'ailleurs, je ne dirais pas que c'est seulement érotique, il y a des choses plus profondes. Je lui manquerai même, peut-être parce qu'il a été élevé uniquement par des femmes, même si son père venait une fois par semaine. Le patriarcat, on dirait. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est un grand livre, je l'évoque bien sûr, et je l'évoque à travers La défense de l'infini, qui est un roman qui a été reconstitué, car avoir en partie détruit, on va peut-être encore d'autres morceaux, ça n'est pas impossible. qui, moi, alors jeune homme, poussée libertaire prodigieuse. Et cette poussée se traduit à travers l'exaltation de l'expression du désir. Et alors, cette faculté exceptionnelle qu'on retrouve chez Bouguel, par exemple au cinéma, même dans le vieux Bouguel, dans Près de jour, comprendre ce qui se passe dans la sécurité d'une femme, comprendre ce qui se passe dans le corps d'une femme, Aragon avait ce don. Il voit les femmes dans le métro, les Français de la fille, et il les sent, sur les bourgeois, sur les mecs. Mais c'est le désir qui doit être libéré.
Mais par ailleurs, vous n'aimez guère la liberté sexuelle des femmes. Par exemple, pour Nancy, il a été, Nancy Prenade, il a été quelque temps jaloux pour croire que le.
Et oui, comme on disait, la pluralité de la personne, cette jalousie est considérable. Très, très grande jalousie. Il a écrit, d'ailleurs, je suis jaloux, jaloux de toi, jaloux de lui, etc. Peut-être ça s'explique d'ailleurs dans les étranges rapports qu'il a eu avec sa mère. Mais il a raconté, j'ai atteint les limites de mon incompétence. C'est un roman, vous savez, que j'ai écrit. Je m'efforce que tout soit vrai, car je suis pas bien sûr, j'ai cru honnête de dire, je n'ai pas pu vérifier, il n'y a pas de document, ou c'est flou. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. C'est un roman qui est basé sur l'étude des archives, la méthode de l'historien. Je m'engage là-dessus.
C'est à mon avis une marque de votre rigueur et de votre honnêteté que de signaler les points sur lesquels il y a le moindre flou. Ça donne, j'espère, grande confiance dans tous les éléments qui sont apportés. Votre capacité à critiquer. Votre question, votre remarque.
Non, non, je crois qu'il est appuyé le fait que deux thèses ne peuvent pas s'entendre. Je pense qu'il y avait écrit dans le livre entre Chartres de Breton et Aragon. Il y a quelque chose qui lui était enlevé quelque part et donc il n'arrivait pas à.
Il y a certainement cette
aspect. Oui, absolument.
J'ai fait cette expérience plusieurs fois dans ma vie
politique. Je pense que...
Mais peut-être qu'il y avait quelque chose de plus. Parce que l'Aragon était très féminin et Breton, impérialement, il est. Alors, on peut rêver, mais là, nous atteignons ce que le biographe ne peut pas dire, parce qu'il n'y a aucun fait pour attester. Donc, on peut rêver un peu dessus, mais sans plus.
Pour un grand bourgeois comme Aragon, est-ce que la classe ouvrière n'est plus grande, ce n'est pas des métaphores?
Non, ça je crois pas. C'est un problème posé, une question que je me suis beaucoup posé, très longtemps. Les paysans ne disent presque pas ça en cours d'hiver. C'est pas ça en milieu rural. Enfin, quel paysan. Aragon les connaissait. Peut-être que dans la partie non écrite de son roman Les communistes, qui serait déroulé à la distance, aurait-il découvert la paysannerie, puisque beaucoup d'urbains ont découvert les paysans à travers les mecs qui vont le voler. Mais la classe ouvrière, il ne la connaît pas du tout, on sait que c'est dans son enfance. C'est les bonnes, c'est le postier, l'apparateur de téléphone, et on lui interdit, je citerai un texte, où je l'ai cité déjà en commun, vous verrez, où il dit qu'on lui interdisait d'aller jusqu'à la loi, mais c'était ouvrier. Ce n'est pas qu'il dit, mais qu'il y ait des beaux quartiers. Il ne connaît pas les ouvriers. Pour la première fois, il voit le monde ouvrier quand il est militaire. D'abord, il y a des ouvriers à l'armée, et puis il occupe la Sarre, comme ça, avec sa division, et là, il voit des usines, des grandes ferroviaires, des mines, et pour la première fois, il va voir les ouvriers lorsque, à la suite d'un accident qui s'est produit en Alsace, les ouvriers de Völklingen, les mineurs de Völklingen, se mettent en grève pour des raisons de sécurité. L'armée française vient pour les journées de marche du régiment qui permet de vérifier les lignes d'Aragon. L'armée française se porte devant la mine avec un élément sanitaire, c'est Aragon, le médecin désigné, au premier jour des blessés, on s'apprête à faire feu sur le mineur. L'Aragon, pour la première fois, dans les ouvriers. Mais il ne déconne pas. L'incident terminé, il s'en va et il dit, il y a problème, qu'il devait acheter chez un élément de Sarroche. Cependant, dira-t-il beaucoup plus tard, dans son roman La semaine sainte, en 1958, dans son inconscient, cette première rencontre avec les ouvriers qui avaient raison, qui se défendaient leur droit à la vie, leur humanité, l'a ébranlé, a écrit quelque chose en lui, et ça a été aussitôt occulté. J'ai essayé plusieurs fois de saisir ces cheminements du subconscient et de l'inconscient chez Rajon par rapport, par exemple, à la mort de Gorky, qui l'a raconté trois fois de suite, de façon différente, et on voit peu à peu, effectivement, à l'époque, il avait senti quelque chose à l'époque, et qu'il avait découvert quelque chose. Là, c'est au contraire quelque chose où il a senti une force, mais il ne la découvre pas, il ne la comprend pas. La classe ouvrière, il la découvrira peu à peu. Il aura du mal à la représenter, à la décrire dans ses premiers romans. Et c'est seulement dans le roman Les communistes qu'il fait un grand effort pour décrire que les mineurs mineurs, il s'est battu avec cette division, le corps médecin toujours, du côté des Nanietards, dans l'arrière-garde, il y a des mineurs austroises qui ont été réellement mineurs, les mineurs ont fait la grande grève patriotique qu'elle en avait ému tous les Français en 1942 contre l'occupation allemande. Là, il va plus loin dans la découverte de la classe ouvrière. Il fait un grand effort. Il fait un grand effort. Vous savez, on disait qu'il est arrogant. Il y en a un qui disait c'est le roi de l'outil. À l'égard de certains, probablement, des bureaucrates en particulier, il était assez arrogant, je veux dire. Rétrospectivement, à l'époque, je n'ai pas compris ni décodé. Rétrospectivement, ça me plaît assez bien. Mais, moi, ce que j'ai vécu, c'est que je lui fais. D'abord, je le prie en privé. Extrêmement cordial, je ne sais pas comment dire, même un peu de la capelle avec moi. Et en même temps, des gars légaux. Et puis, je me suis trouvé dans des réunions, nous élaborions des textes ensemble. Il entrait, effectivement, il portait beau. On avait l'impression que c'était le roi Louis. Mais à peine était-il entré, comme les sentiments qui déposaient ça, son manteau royal à la patère, et il devenait le plus charmant des gars. Il a fait un grand effort pour abandonner l'arrogance de son milieu, qu'il détestait moralement, qu'il portait encore parfois dans sa façon de parler, qui était la façon de lire, et bien pointu, il est pas comme elle d'ailleurs, il posait sa voix à la table, il faisait bien voir. Mais il disait assez mal ses poèmes d'ailleurs. Mais, justement, parce que, comme il disait tout ça à l'époque, il a rajouté. Mais il a été ému. Par les ouvriers. Et il y a là, ces archives, dans les cités de Montreuil, des lettres d'Henri Renaud. Il y avait une cellule de chez Renaud qui avait une cellule Aragon. Et lui envoyait cellule. Il faisait des poèmes carrément incarnés. Il les a gardés dans ces archives, des poèmes qui sont scandaleux. Mais ça l'avait ému. Il a toujours essayé, non pas de se mettre à la portée des ouvriers, car il n'y avait qu'une culture, mais une sous-culture pour le travail, alors ça c'était fondamental chez lui, mais de faire l'effort pour les aider jusqu'à la grande culture. Enfin, c'est quand même une chose qui a frappé la correctrice remarquable d'ailleurs, qui a travaillé sur ce livre. Elle m'a dit, je ne savais pas, je ne savais pas que le Parti communiste avait été attaché tant d'importance à la culture. Mais ça, c'est en partie grâce à Rajon.
Merci des questions, merci des réponses. Est-ce que vous avez des questions de penser que vous pouvez encore traiter une question aussi?
Je vais être très bref.
Est-ce qu'Aragon a participé à un moment donné de sa vie à ses qualités de médecin?
Il était médecin.
Mais de quoi, quelle spécialité?
Il a arrêté ses études avant la fin. Il a arrêté ses études avant la fin, mais il a été un médecin militaire remarquable, couvert de décorations dans les deux guerres mondiales. Il y a des témoignages d'officiers, même du général Miro, qui décrivent son comportement comme médecin au feu, etc. Et ce que je peux dire personnellement, c'est qu'il avait gardé un sentiment de médecin. Il savait ce qu'il avait. Il connaissait son corps, il savait comment il fallait faire. Et puis, un jour, il a eu cette phrase devant moi qui me regarde, qui dit, tu comprends, j'ai tenu dans mes mains le cœur de soldat alors qu'il avait ses derniers battements. Ça
jeune homme lui dont Jésus battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise de cygne. Il faut vraiment s'arrêter. Je suis désolé, je suis désolé, vous, j'ai plein de questions.
Excusez-moi de répondre si
longtemps. Il faut s'arrêter. N'attendez pas le deuxième tome, il y a déjà une fois pire.
Et le deuxième est imprimé déjà, donc c'est pas quelque chose.